Et on va lire ensemble dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, un premier texte, à partir du verset 18, il nous est donné ici un témoignage concernant le père des croyants, Abraham. Romains, chapitre 4, le verset 18. Combien ces paroles sont fortes, hein. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ces paroles si précieuses. Nous lirons en second texte introductif dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Simplement deux versets, les versets 12 et 13. Hébreux, chapitre 12, verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. » Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est une évidence, parce que je crois que c'est le thème primordial à aborder avec l'Église dans ces derniers temps, c'est celui de la santé de notre foi. La santé de notre foi, puisque il est question dans les textes que nous venons de lire, il est question de raffermir, il est question de se fortifier, il est question de ne pas faiblir. Abraham n'a pas faibli. Donc il est quand même question dans ces textes de la nécessité, je crois plus impérieuse que jamais, que nous ayons une foi raffermie, entretenue, bien entretenue, bien nourrie, que nous puissions veiller à cela d'une manière particulière. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous fortifie. Il ne s'agit pas, lorsque je parle de force, eh bien, d'énergie psychologique, de force humaine, de force de caractère. Parfois, nous rencontrons des amis nous dire « Moi, j'ai du caractère. Quand j'ai un problème, j'assume. » Eh ben, même le plus fort d'entre les hommes arrive tôt ou tard aux limites de ce qu'il peut assumer, et les forces humaines, tôt ou tard, s'avère insuffisante. Heureusement, c'est Dieu qui nous fortifie. Mais ce Dieu qui nous fortifie nous interpelle en nous disant « Fortifie-toi, fortifiez-vous », ce qui implique quand même une part de responsabilité. J'ai certaines démarches à faire, certaines précautions à prendre, pour me fortifier moi-même. C'est Dieu qui me fortifie. Mais ce Dieu qui me fortifie veut me responsabiliser afin que je fasse aussi ma part. Fortifier notre foi, c'est certainement une nécessité primordiale aujourd'hui. Pourquoi ? Ben parce que les facteurs de fatigue et d'usure sont nombreux. Nous allons être en but d'une manière, je dirais, constante à une conjugaison de facteurs qui vont viser à affaiblir notre foi. Je citais nos fatigues. Nous vivons un siècle où l'être humain est sollicité dans ses énergies physiques, mentales, nerveuses, intellectuelles. Une société exigeante. Le résultat, c'est quand même une fatigue. Nous vivons une société de la dictature de l'urgent. Ce qui est urgent va s'imposer à nous différemment de ce qui est important. Parce qu'il faut savoir parfois faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment important pour nous. La dictature de la rentabilité. On n'existe aujourd'hui qu'à travers le succès que nous pouvons produire. La rentabilité, c'est la mentalité du monde. Nous sommes dans ce système et c'est un système fatigant. C'est un système qui oblige à des investissements d'énergie incroyables. Eh bien, face à ce premier paramètre de la fatigue, la Bible me dit « fortifie-toi ». Gloire à Dieu. Fortifie-toi. Il y a aussi la peur, la frayeur. Il y a des situations qui génèrent de l'inquiétude, que ça soit sur un plan, je dirais, national, international, ou beaucoup plus personnel, sous notre toit, il y a tant et tant de facteurs qui voudraient engendrer la peur. La frayeur, est-ce que quelqu'un ce matin traverserait une situation qui engendre dans son cœur un questionnement, un tremblement, une frayeur? Eh bien, face à nos peurs, Dieu me dit, fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi. On peut aussi être en but à une troisième configuration, nos défis. Josué avait devant lui un défi gigantesque, faire entrer le peuple dans le pays de la promesse, franchir le Jourdain, affronter Jéricho, le grand verrou impressionnant. Il y a un défi qui se lève et Dieu lui dit, fortifie-toi. Et bon courage. À trois reprises, fortifie-toi. Et ces trois fortifie-toi ne sont pas des copies collées, mais à chaque fortifie-toi, Dieu ajoute un aspect, des éléments qui sont là pour nous fortifier. Notamment, fortifie-toi, car je serai avec toi. Devant nos défis, nous avons à nous fortifier. Et puis, les temps difficiles qui sont là, nous vivons des temps difficiles, et on est tous d'accord pour le reconnaître, des temps de difficulté, mais en même temps avec un phénomène d'accélération. Les choses s'accélèrent et vont dans un sens qui suscite de l'angoisse. La Bible parle de l'angoisse des nations. Nous vivons dans une atmosphère générale de grande anxiété. Et l'anxiété, c'est contagieux. Et voici que les enfants de Dieu qui vivent au milieu d'une société anxieuse sont invités par le Seigneur à se fortifier, à ne pas se laisser déstabiliser par l'angoisse générale, les difficultés de nos temps aujourd'hui. Alors fortifiez-vous. L'apôtre donne trois aspects de notre foi que nous sommes appelés à fortifier. Fortifiez donc vos mains, parce qu'elles sont languissantes. Fortifiez vos genoux parce qu'ils sont affaiblis. Et fortifiez aussi vos pieds permettant de suivre des voies droites afin que ce qui est boiteux ne défie pas, mais plutôt se raffermisse. Fortifiez nos mains, fortifiez nos genoux, fortifiez nos pieds. C'est la foi sous trois aspects et dans trois dimensions. Et forcément, nos mains, c'est la foi qui me rend utile et qui travaille pour le Seigneur. Fortifier nos mains, c'est fortifier la motivation, la qualification, le zèle d'une foi qui va engendrer ce que Jacques appelle les œuvres de la foi. Les mains nous parlent des œuvres de la foi qui travaille, la foi qui sert, la foi qui donne, la foi qui distribue, la foi qui secourt comme une main tendue, la foi qui est un instrument de secours et de bénédiction. L'apôtre Jacques va écrire ceci dans le chapitre 2 de son épître. Ce texte, il est un peu long, mais on va le lire. Il peut peut-être choquer par son caractère radical, mais il est inspiré de Dieu et il mérite qu'on le médite honnêtement. Au chapitre 2, au verset 14, l'apôtre Jacques écrit ceci. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, mais une fois qu'on est sauvé par la foi engendre des œuvres, qui sont les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, ce n'est pas de l'activisme, ce n'est pas de l'agitation, ce n'est pas faire pour faire, mais ce sont les œuvres inspirées par la foi. Et Jacques dit, au verset 15, « La foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus ?» et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. » À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Nous prions le Seigneur pour qu'il fortifie notre foi dans cette première dimension, le service de Dieu, le service de l'Évangile, la foi qui va s'exprimer par des démarches, des attitudes, des comportements, des choix, des investissements de notre personne, une gestion de notre temps qui sera inspirée par le Seigneur. Les œuvres de la foi, il nous est donné comme exemple Rahab, mais la Bible est remplie de personnages qui, dans des circonstances particulières, ont eu des attitudes extraordinaires, mais exemplaires, inspirées par leur foi. Il y a un témoignage qui me revient à l'esprit pendant que je parle de la sorte. C'est celui d'une maman qui a été invitée un soir à une réunion d'évangélisation par une chrétienne il y a bien des années en arrière. Et cette maman est donc venue écouter l'évangile. Ça a touché son cœur et ça a suscité la foi dans son cœur. La semaine suivante, elle est revenue écouter l'évangile. Mais cette fois-ci, elle est venue avec sa fille. Sa fille qui était née avec une malformation à un pied. Et donc, elle était équipée d'une chaussure orthopédique. Donc, une jeune enfant handicapée. Et donc, elles viennent toutes les deux, la réunion suit son cours, et comme de coutume, le prédicateur, suite à la prédication, invite les malades à l'imposition des mains, et donc, cette maman, qui venait d'entendre l'évangile la semaine d'avant, simplement, avance avec sa fille. Et donc, le pasteur prie pour l'un, pour l'autre, et pour la petite fille également. Et donc, elle s'assoit. Et donc, alors qu'il y a encore quelques minutes pour la fin de la réunion, la fille dit « Maman, j'ai mal au pied, là. J'ai mal à mon pied. » Ah bon ? Et pour faire court, la maman enlève la chaussure orthopédique. Et le pied avait retrouvé une forme normale en quelques minutes. Alors bien sûr, l'émotion, la louange, l'émerveillement. Et puis il s'est produit une deuxième chose, encore plus merveilleuse, est-ce que je peux oser dire ça? C'est que la maman, elle ouvre son sac et elle sort une paire de chaussures normales à la pointure de l'enfant. Elle avait entendu l'évangile une seule fois, mes bien-aimés, la semaine d'avant. Mais cet évangile simple et miraculeux à la fois avait suscité la foi authentique. Et la foi avait suscité une œuvre, une démarche, une attitude. La foi, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'abstrait. La foi, ça change ma vie. La foi, ça change mes comportements. La foi, ça me donne de prendre des choix, des décisions. La foi me transforme. La foi change mon vocabulaire. Hier, je parlais comme un charretier, mais aujourd'hui, ma bouche est désinfectée. La foi change mon mode de pensée. Hier, mes pensées me tiraient vers le bas. Aujourd'hui, c'est l'espérance qui me transporte vers le haut. Alléluia. La foi, ça suscite des œuvres tangibles, des résultats concrets, vérifiables, mesurables, alléluia, et qui durent dans le temps. La foi, c'est pas du conditionnement, c'est pas de la manipulation psychologique. La foi, c'est une puissance, une source qui ouvre la porte au miraculeux de Dieu. Et nous voulons vivre le miraculeux du Seigneur. Amen. Et pendant que vous écoutez ces simples rappels, parce que ce ne sont que des rappels, vous pouvez être visité par le Seigneur ce matin. Sur ta chaise, tu peux recevoir une bénédiction. Tu peux brusquement comprendre que par la foi qui t'habite, tu es amené maintenant à une démonstration par des œuvres, par des attitudes. Un après-midi, ça me revient comme un souvenir. Je faisais une réunion de maison. Partage biblique et puis une liste de prières, voyez-vous. Et notamment, dans les sujets de prière, une situation vraiment difficile. Alors je dis à ce petit groupe d'une dizaine de personnes, nous allons prier en croyant que le Seigneur agit. Amen, 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 tout le monde. Et nous avons prié, paisiblement, établi sur les promesses de Dieu. La réunion se termine, alors on prend un petit café, deux biscuits, et pendant le café, j'écoute les discussions des uns des autres concernant la personne pour laquelle on avait prié et affirmé que Dieu avait agi. Les personnes parlaient, ah, la pauvre, c'est très très grave sa maladie. Et les discussions qui se sont exprimées, finalement démontraient qu'on n'était pas pleinement dans la position de l'exaucement obtenu. La foi, elle change mon discours, elle change mon vocabulaire. Mon vocabulaire défaitiste et stressé disparaît. Et j'ai un vocabulaire surprenant, cette tsunamite qui va dire « mais tout va bien ». Son enfant est inanimé dans la chambre haute du prophète. Quel miracle ! Tout va bien ! La foi engendre des œuvres. Quand Jésus s'adresse aux églises de l'Apocalypse, vous savez, les sept églises, pour trois sur les sept, il adresse ses paroles à Éphèse. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Justement, ces premières œuvres qui découlent du premier amour. Vous savez, ce premier amour qui est inconditionnel, qui nous remplit de tressaillements, d'émotions. Les réunions ne sont jamais assez longues. Les efforts à fournir pour évangéliser, nous les faisons avec beaucoup d'enthousiasme. Ce premier amour, moi je me souviens de mon premier amour avec ma fiancée. Un soir, on était là, on a parlé pendant 3 heures et j'avais l'impression que c'était 10 minutes. Ce premier amour. Et Éphèse, l'église d'Éphèse avait ceci de répréhensible, d'avoir abandonné son premier amour, et ayant abandonné son premier amour, elle a cessé de faire les œuvres inspirées par son premier amour. Il regarde l'église de Thyatire, « Je connais tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » Gloire à Dieu. À l'église de Sardes, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaite devant Dieu. » Quand le Seigneur, le chef de l'Église, pose ses regards sur son Église, ses Églises, il est en souci d'apprécier, d'estimer, d'évaluer certaines valeurs fondamentales, la persévérance, etc. Et parmi ces valeurs fondamentales, il y a les œuvres de la foi. Seigneur, viens bénir l'Église d'Aubagne. Et que, encouragés par le Saint-Esprit, renouvelés, ressourcés, nous puissions tous ensemble, de même cœur, eh bien, nous lever et travailler pour le Seigneur. Amen. Travailler, servir, témoigner, consoler, encourager, exhorter, alléluia, visiter, partager avec autrui les trésors de la grâce de Dieu, avec une main inlassable. La Bible me dit, vers le soir, ne laisse pas reposer ta main. Un neveu me disait ces jours-ci, « Tonton, toi t'arrêteras jamais. Hein » Ben oui, mais même vers le soir, même vers le crépuscule, qui nous parle de la saison ultime de notre pèlerinage terrestre, la Bible me dit, ne laisse pas reposer ta main, parce que tu ne sais pas quel est le travail qui va être vraiment efficace, celui du matin, du soir, de la journée. Alors, jusqu'au bout et jusqu'à ce que le Seigneur va le permettre, que nos mains soient alertes, actives, mais sous l'inspiration de la foi. Ce ne sont pas n'importe quelles œuvres, ce sont les œuvres de la foi. Ce sont ces œuvres-là qui nous suivront dans le ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Hein. Leurs œuvres les suivent. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ainsi que le Seigneur veut nous encourager. Fortifie ton service, mon frère, ma sœur. Fortifie ton service. Si tu as quelque peu de lassitude, d'usure, si tu as l'impression que ton service n'a pas porté les fruits que tu attendais, fortifie-toi, fortifie ton service, fortifie ton implication dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Avec David, prends exemple. Il est dit de lui, David les conduisit avec des mains intelligentes. Eh bien, Dieu va te donner des mains intelligentes, autrement dit qualifiées, capables. Alléluia. Que le Seigneur nous secoure. Il y a un deuxième aspect de la foi que nous devons fortifier, c'est les genoux. Fortifiez vos genoux affaiblis, et je mettrai cette exhortation sous l'angle de la foi qui honore Dieu. Les mains, c'est la foi qui travaille, qui sert. Les genoux, c'est la foi qui honore Dieu. Et on a besoin de fortifier nos genoux afin que nos genoux refusent de se fléchir devant autre chose que seulement le Seigneur. Amen. Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Et la Bible nous donne tant d'exemples merveilleux d'hommes et de femmes qui ont refusé de fléchir les genoux parce que leurs genoux étaient fermes. Ils ont refusé de fléchir les genoux devant diverses influences, parfois même avec menaces. Ils ont veillé à fortifier leurs genoux. Vous savez, quand le roi païen va ordonner qu'on se prosterne devant la statue, et quand vous voyez trois jeunes gens dire au roi, sache au roi que nous ne nous prosternerons pas devant la statue, ils avaient les genoux forts. Amen. Alors on les a jetés dans la fournaise, et vous connaissez la suite du récit. Ils ont été préservés, et un quatrième personnage était avec eux. Quand on les a sortis de la fournaise, même leurs sourcils n'avaient pas été atteints par le feu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ils ont refusé de fléchir les genoux devant les influences, les menaces. Nous vivons une société d'influence par les médias, par les réseaux sociaux. C'est les moyens modernes par lesquels l'adversaire cherche à faire fléchir nos genoux. Eh bien, fortifiez vos genoux affaiblis. Et j'ai envie de dire une chose. Plus tu fléchiras les genoux devant ton Dieu, et plus tes genoux seront forts pour ne pas fléchir devant les influences étrangères. Amen. Fléchis les genoux devant le Père, parce que cette attitude l'honore. C'est la foi qui honore Dieu. Alléluia. Daniel a traversé exactement le même défi, et ses genoux sont restés fermes. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Des lions affamés qui ont vu cet homme. Et sous le contrôle du Créateur, les lions sont venus, ils ont mis leur crinière sur l'épaule de Daniel, une de leurs pattes ici. En fait, Dieu les a transformés en grosses peluches. Ouais. Et quand au petit matin, le roi Darius, inquiet, stressé, dit « Daniel, est-ce que le Dieu que tu persévères à servir t'a gardé de la patte des lions ?» Oh, une voix sereine a répondu, « Sois apaisé, ô roi, mon Dieu m'a gardé. » Alléluia. Ses genoux ont refusé de fléchir devant les menaces. Mon frère, ma sœur, peut-être tu traverses sous ton toit une période difficile. L'atmosphère à la maison n'est pas facile. Eh bien, que tes genoux ne capitulent pas. Fléchis-les seulement devant le Dieu des miracles. et tes genoux vont résister et tu vas traverser l'épreuve victorieusement. Ça, c'est la foi qui honore Dieu. Il se plaignait au sortir de la caverne, Élie devant l'Éternel. Je suis resté moi seul, quelle erreur. Dieu lui dit, tu as faux sur toute la ligne. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour tous ces croyants qui ont su veiller sur la tonicité de leur foi et qui, jusqu'au bout, ont résisté aux séductions, aux tentations, aux pressions, aux pièges de l'adversaire et qui sont restés debout. Et je le répète, plus je m'agenouillerai devant le Père et plus il me permettra de rester debout dans les périodes difficiles et délicates, que Dieu soit béni. Et puis il faut, avant de terminer, voir ce troisième aspect, fortifier vos pieds. Il faut fortifier les pieds. Et les pieds, bien sûr, c'est une évidence, les pieds vont nous parler de la marche de l'enfant de Dieu. La Bible nous dit, autrefois, nous marchions dans les ténèbres. Nous marchions selon le train de ce monde. Mais c'était autrefois cela. Gloire à Dieu. Mais maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. C'est autre chose. Jésus va nous parler de deux voies. Une voie large et spacieuse, et beaucoup l'empruntent, beaucoup y marchent, puis un chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Il y a deux voies. Eh bien, la foi va nous donner de choisir sans hésiter le chemin étroit. Amen. Gloire à Dieu. Il est resserré. Il est étroit. Quelquefois sinueux, parce qu'on a du mal à avoir une vue à longue distance. Parce que Dieu veut que nous marchions pas à pas. Mais il nous mène à la vie éternelle, que Dieu soit béni. Et il faut fortifier nos pieds. L'Épître aux Colossiens dit ceci dans son chapitre 1 et au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 10, afin que pour marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est l'expression qui doit qualifier, qui doit labelliser la marche de tout enfant de Dieu. Une marche digne du Seigneur. Amen. La référence, c'est le Seigneur. Et ma marche quotidienne doit tendre à se conformer à cette référence. Alléluia. Et alors bon, ça c'est l'idéal. Et puis il y a la réalité, tel ce verset qui nous dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Broncher, c'est déraper. Qui n'a jamais dérapé ici? Qui lève la main? Bon, ben, ça me rassure un peu, parce que moi non plus. Mais nous sommes à l'école de Dieu, et avec sa grâce, nous sommes appelés à fortifier nos pieds afin qu'ils cessent de déraper et qu'ils progressent dans la rectitude et la fidélité à conformer notre marche à la valeur et à la volonté du Seigneur. Peut-être quelqu'un a ce matin parmi nous des pieds fatigués, une marche vacillante. Peut-être la séquence de ta vie que tu traverses en ce moment te procure beaucoup de difficultés. Il y a différents terrains. Il y a des terrains accidentés. Tu traverses peut-être un semblable épisode accidenté, caillouteux, rude. Fortifie tes pieds. Fortifie ta marche. Et le Seigneur veut faire de ta marche une marche stable, forte, assurée. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Je termine avec ce témoignage qui me revient à l'esprit. Une jeune fille que j'ai eu l'émotion de baptiser il y a bien des années, une vingtaine d'années, et elle postule à un emploi. Elle postule et elle est prise. Secrétaire de direction dans sa société, quand même. C'est un bon commencement, n'est-ce pas? Et c'est formidable. Et avant de l'introduire dans la pratique de son poste, son directeur lui dit « Mademoiselle, lorsque le téléphone sonne et que je vous dis « Je suis pas là », vous dites « Il n'est pas là, désolé ». Et si je vous dis « Ok », alors je prends la communication. Et il ne met pas longtemps pour sonner le téléphone. Rapidement, le téléphone sonne et le directeur dit « Je suis pas là ». Et elle dit « Il est là, je vous le passe un instant ». Et elle passe le directeur. Et après que l'entretien se soit terminé, étonnamment, le directeur a admiré la rectitude de la fille et il lui a confié des missions de confiance parce qu'il a apprécié sa qualité morale. Ça glorifie le Seigneur quand tu marches bien droit. Même si, à première vue, ça te coûte. Mais si tu préfères honorer le Seigneur en marchant conformément à ses valeurs, au bout, tu vas vivre des choses merveilleuses. Dieu va se glorifier, alléluia, et ton témoignage va impacter ton entourage. Que le Seigneur nous en fasse la grâce. Amen. Pas de